Direct en jeu, la radio insolite, bonjour à tous. En cette journée merveilleuse, extraordinaire, nous fêtons, enfin, je vous rappelle, l'étude de la loi il y a 40 ans concernant l'abrogation de la radio libre. Demain, évidemment, le 10 novembre, nous allons fêter comme il le faut l'apparition au journal officiel qui nous rendait tout simplement radio libre. Et ça, c'est un moment important. Et là, ce qui me fait plaisir, c'est que je vais passer un petit moment avec Julie. Bonjour Julie.
Bonjour Alain, merci de m'avoir parmi vous.
Ouais, alors, je serais tenté à me poser la question de savoir comment je dois commencer. Est-ce que je dois dire « il était une fois » ou est-ce que
on
je dois
dire «
c'est
était
un beau roman,
fois.
C'est une belle histoire okay » Parce que quand je suis sur le site internet, sur votre site internet, je me dis « c'est fabuleux, quoi, c'est une histoire ». Les bancs de l'école, ça a commencé comme ça. Au fait, avant de commencer, à qui ai-je le plaisir? Bonjour, qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie?
Alors du coup, oui, on peut dire « elle était une fois », comme je le disais. Est-ce que vous voulez que je présente Feminist in the City ou
Ah
mon
bah
parcours?
Oui, tout à fait, allez-y.
Super. Donc Feminist in the City, ce sont des visites guidées et des masterclass féministes ouvertes à toutes et tous à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Marseille. Des visites guidées qui sont nées en 2018 avec notre première visite parisienne street art et féminisme. Et Lyon a été donc la première ville hors Paris au sein de laquelle on a monté une visite guidée. Et c'est également des visites qui sont donc marrainées par Claudine Monteuil, qui est historienne, diplomate et honoraire française, et également qui était la plus jeune signataire du manifeste des 343, qui a également permis la dépénalisation de l'avortement en 1975 et qui a milité aux côtés de Simone de Beauvoir pendant des années. Donc Feminist in the City, c'est aussi un collectif très intergénérationnel et qui relate de l'histoire des femmes, puisque c'est vraiment l'essence de Feminist in the City, mettre en lumière les femmes dans l'art, l'histoire et la culture.
Alors, je serais tenté de dire, vous créez un projet autour de la sensibilisation au féminisme, c'est une profession de foi, c'est une passion, c'est d'actualité.
Alors, en fait, c'est intéressant parce que quand on a commencé à penser le projet, donc,
oui,
qui est né sur les bancs de Sciences Po Paris, aux côtés de, donc moi, aux côtés de ma collaboratrice de l'époque, Cécile Farah, et bien en fait, le mouvement MeToo n'était pas encore vraiment parti. J'étais déjà engagée depuis des années, puisque moi, j'étais moi-même présidente de l'association féministe de mon université auparavant, de rentrer à Sciences Po en master. Donc, c'est vraiment né d'une passion, mais d'une vraie réalisation, puisque moi, je suis passionnée, je suis féministe, je le suis devenue. Et en arrivant à l'université, j'ai vraiment commencé à trouver beaucoup de choses problématiques, à prendre conscience des inégalités et du sexisme ordinaire, notamment, ce qui m'a vraiment permis de passer de ma première année universitaire où j'étais pas du tout engagée sur ces sujets-là à ma dernière année universitaire en tant que présidente d'une asso féministe. Donc vraiment, on est passé du tout, de rien à tout.
D'accord. Est-ce que j'aime bien parce que quand je lis votre site internet, il y a marqué « le féminisme est un mouvement incompris ». Et puis il y a marqué aussi « l'objectif, c'est de sensibiliser aux inégalités entre les genres ». Mais permettez-moi, moi, en tant qu'homme, de vous dire quelque chose. Mais sans vous, on n'existerait pas, on serait perdu.
C'est-à-dire, vous seriez perdu sur les enjeux féministes?
Sur le fait de vivre. Sur le fait d'avoir... Comment, vous avez des talents, on a des talents communs, et puis vous avez des talents que nous, on n'a pas, et vice-versa. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, c'est vraiment quelque chose qui est important? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est développé, qui a fait que y a une reconnaissance de plus en plus importante de cette dynamique féministe?
Oui, alors on observe vraiment depuis le mouvement MeToo notamment, une augmentation de la légitimité.
Voilà.
Je parle bien de légitimité du mouvement féministe qui, depuis sa naissance, est complètement délégitimisé, il est décrédibilisé. Les féministes il y a quand même beaucoup de stéréotypes autour du féminisme et des féministes qui sont perçus comme des radicales, des hystériques, des néo-nazis. Enfin, je vous en passe des meilleurs.
Ah, moi, donc j'adore, vous parlez vrai, j'adore, hein. Non, mais tout à fait.
Puis pendant des années, notamment dans les années 90-2000, en fait, les seules féministes qui apparaissaient à l'écran en France, c'était Femen. Donc, il y a ce mouvement que moi, personnellement, je trouve extraordinaire et que j'aime beaucoup parce qu'elles sont très courageuses, mais en tout cas qui apparaissait en fait et qui était présenté comme radical et un mouvement d'hystérique, puisque c'est la manière dont elles ont de se présenter dans l'espace public quand elles font des manifestations est très extraordinaire. Et donc en fait, il y a ce cliché qui s'est instauré dans les esprits, en tout cas de cette idée que le féminisme, ce n'était que ça, alors que pas du tout. Le féminisme, c'est plein de mouvements que justement, on présente pendant les visites guidées pour que les personnes qui essayent de comprendre un petit peu mieux ce mouvement puissent se faire, se construire un esprit critique. Et tous ces mouvements-là sont présentés. Donc, il n'y a pas que les femmes. On avait accueilli Ina Shevchenko, qui est la présidente Femen France, qui nous avait parlé donc de qu'est-ce que le féminisme radical et qui nous a expliqué quels étaient les enjeux du féminisme radical. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres formes de féminisme. Il y a également eu historiquement plusieurs vagues féministes au XXe siècle. Et donc, on traite de tous ces enjeux-là à l'occasion de nos visites guidées. Donc, on ne parle pas que des femmes oubliées de l'histoire, des héroïnes oubliées de l'histoire. On parle également de féminisme.
Alors, ce que j'aime bien, c'est la base de l'activité, mettre en lumière les femmes dans l'histoire, l'art et la culture et transformer les regards sur la ville et la société. Mais vous savez, la première femme dont on a parlé, c'est Ève.
Alors, je pense qu'avant même Ève, il y en avait d'autres.
Non, Adam et Ève. Carrément, il y en avait d'autres avant, alors pas de problème. Bon, c'est tout. Allez-y.
En fait, si vous voulez. Oui, Ève est une figure de la Bible qui d'ailleurs a été réappropriée pour le mépris des femmes, puisque justement Ève, c'est celle qui a croqué dans la pomme, c'est celle qui est à l'origine du péché originel. Finalement, c'est pas une femme qui est aimée en fait du tout. Justement, elle a légitimé le mépris des femmes dans la religion, dans cette religion-là.
Ah, d'accord.
Donc je sais pas si c'est un.
C'est un peu différent. Julie, vous me permettez. Moi, je dis simplement quand même que Adam, il a été galant, quoi. Il y a eu une pomme. Bon, il a fou. Non, mais là, pour être sérieux, c'est vrai qu'il y a ça. Maintenant, ce qui est assez étonnant, c'est que je vais prendre un exemple durant la Deuxième Guerre mondiale et même durant la Première Guerre mondiale. Les hommes partant au front, les femmes ont été incontournables et elles se sont révélées quelque part. On a vu qu'elles étaient là et qu'elles pouvaient être vraiment d'une présence très conséquente et très importante.
Tout à fait. Donc là, vous parlez de la Première Guerre mondiale, ce qui a été un fait total. Et puis pendant la Seconde Guerre mondiale également. Et d'ailleurs, à Lyon, sur la ville de Lyon, nous, on parle énormément des femmes en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est une histoire également qui a été complètement invisibilisée. Il y avait le mythe du héros combattant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui faisait que la forme de résistance des femmes qui étaient majoritaires, donc cacher, nourrir, faire évader les enfants juifs, etc., n'était pas considéré comme la forme de résistance la plus valorisée. Résultat, les femmes n'ont représenté que 10% des médaillés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et elles n'ont représenté que 8 personnes qui ont reçu le prestigieux titre de compagnon de la libération. Il me semble que c'est 6, c'est même pas 8, c'est 6, voilà, c'est 6 femmes, c'est bien ça, sur 1038 personnes combattantes à recevoir donc le titre prestigieux de compagnon de la libération. C'est donc un titre qui était décerné pour récompenser les personnes qui ont permis la libération de la France au lendemain de la guerre. Le problème de ça, c'est qu'on a également ensuite des noms de rues qui ont été décernés aux hommes résistants, donc pas aux femmes. Mmh. Et les femmes, en ce sens, sont restées les oubliées de l'histoire.
Et pourtant, sur Lyon, vous allez organiser, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de vous accueillir, le 28 novembre, une visite féministe de Lyon, où vous allez parler de personnes qui sont quasiment incontournables. Lucie Aubrac, Louise Abbé, et puis surtout, la mère Brasier, Eugénie Brasier.
Oui, alors en fait, Eugénie Brasier, c'est vraiment notre dernier arrêt sur la visite féministe de Lyon, puisqu'en fait, elle termine rue Eugénie Brasier. On venait justement de parler des noms de rue. En France, on n'a que 2% des noms de rue qui portent des noms de femmes. Le reste des noms de rue, c'est des noms d'hommes ou d'autres choses. Donc, le simple fait que cette rue soit appelée Eugénie Brasier est importante à préciser également. Mm-hmm. Et en fait, les femmes, elles ont toujours joué un grand rôle dans l'histoire de la gastronomie française, oui. Un rôle qui a été effacé. Et au XXe siècle, les auberges, c'était surtout des femmes qui cuisinaient dans les auberges. Et c'est là qu'on a commencé à avoir ce nom de mère, puisqu'elles étaient appelées les mères. Et dans les années 20-30, les mères étaient donc les principales chefs cuisinières à Lyon et dans toute la France. Et par ailleurs, c'était surtout des femmes issues de milieux défavorisés qui avaient créé donc leur propre entreprise grâce à leur travail et à leur détermination. dans un monde qui ne leur laissait pas nécessairement beaucoup de place à l'époque. Quoi qu'il en soit, Eugénie Brasier, donc, qui est aussi appelée la mère Brasier, qu'on connaît aussi sous ce nom à l'heure actuelle, elle a été la première chef à obtenir 3 étoiles au guide Michelin en 1933. Et elle est également la première cuisinière à avoir obtenu 2 fois 3 étoiles pour ses 2 restaurants, l'un étant à Lyon et l'autre au col de l'Alluère. Donc oui, on parle de Eugénie Brasier à l'occasion de cette visite guidée, mais il n'y a pas que Eugénie Brasier, hein, c'est juste une figure de Lyon. Hein. Il y en a d'autres comme Clotilde Bisolon, dont on ne se rappelle que très peu du nom, mais
oui.
qui ont également joué un rôle important, puisqu'elle, au début de la Première Guerre mondiale, après avoir perdu deux membres de sa famille, donc son mari et son fils, elle a ouvert un bar près de la gare de Perrache pour offrir du réconfort aux soldats qui passaient par Lyon. Et elle est donc devenue une figure très populaire à l'époque. Elle était connue sous le nom de la mère des poilus. Donc oui, Eugénie Brasier est une figure très, très importante. Il y en a d'autres. Et elle rappelle également le fait que les femmes ont fait partie de l'histoire de la gastronomie. Même si aujourd'hui, le guide Michelin valorise peu les talents féminins. On voit qu'en 2020, les femmes, elles représentaient que 5% des étoilés Michelin. Mais dans tous les cas, voilà, ça représente et reflète le fait que les femmes ont bien joué un rôle dans l'histoire de la gastronomie lyonnaise, rôle qui, une fois de plus, comme le souligne l'historienne Eliane Viennot, a été effacé de l'histoire, pas seulement invisibilisé.
Alors, allez, on y va sur la question, je ne peux pas m'empêcher. Directeur Jules Radio Insolite, on aime bien les choses. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que ce sont des hommes qui décident ou est-ce que c'est le fait qu'il y a encore tout un travail de fond à faire pour une reconnaissance tout à fait justifiée et réelle des femmes ?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, en fait, à l'époque, les femmes n'avaient pas accès à l'éducation. En fait, quand elles ont commencé à écrire, les femmes, en fait, ce qu'elles écrivaient relevait de la sphère privée. Donc, il y avait des correspondances, des journées intimes qui étaient souvent détruites par les familles après la mort de leurs autrices. Et parce que ça relevait de la sphère privée, ce n'était pas quelque chose qui intéressait les historiennes, qui n'ont pas intéressé les historiens et historiennes. Donc, il y a cette raison-là. On a également un manque de sources et d'archives, parce que historiquement, encore une fois, ce qui relevait de la sphère privée n'intéressait pas. Donc les femmes, l'immense majorité des documents historiques ont eu pour sujet un ou des hommes, ont été écrits par les hommes ou bien les deux à la fois. Et donc, c'est d'ailleurs une inégalité tranchante qui se retrouve aujourd'hui dans les manuels scolaires. Et la troisième, donc l'éducation, le manque d'archives, et la troisième chose, c'est également l'effet Matilda. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce phénomène sociologique. C'est un phénomène de réappropriation par les hommes des découvertes ou des choses qui sont faites par des femmes. C'est un phénomène, l'effet Matilda, qui a été théorisé par l'historienne des sciences Margaret Rossiter en 1993 et qui concernait de base majoritairement les sciences. Donc, il est vraiment question ici du déni, si ce n'est du travail réalisé par les femmes, donc principalement en sciences, mais également dans tous les autres domaines. Hein. On peut citer l'effet Matilda, notamment dans la littérature. Hein. On a très bien vu que Colette, par exemple, au départ, quand ses livres étaient publiés, ils étaient publiés sous le nom d'un homme. C'était son mari à l'époque qui s'était réapproprié ses écrits en disant que c'était lui qui les avait écrits alors que c'était Colette. Donc vous voyez, il y a ce phénomène de réappropriation qui fait que voilà, les femmes ont été invisibilisées de l'histoire. C'est la troisième chose. Et la dernière, je dirais, le syndrome de l'impostrice, donc qui fait écho au syndrome au masculin de l'imposteur, là est un autre mécanisme qui a vraiment participé à l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Et pour vous donner un exemple, déjà pour expliquer le syndrome de l'impostrice, c'est un mécanisme psychologique qui incite les personnes concernées à ne pas se sentir légitimes dans leur accomplissement, donc comme des impostrices ou des imposteurs. Et l'exemple frappant, c'est celui justement des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que certes, en effet, le système machiste de l'époque ne valorisait pas la résistance des femmes, mais il y a également le fait que les femmes ne se sentaient pas légitimes de s'avancer pour dire « moi aussi, j'ai résisté ». Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à la libération, elles ne se sont pas senties légitimes pour faire ça, avec cette humilité, intériorisée depuis des siècles. Alors que les hommes, eux, sont allés voir les pouvoirs publics pour dire « Attendez, moi, je mérite une récompense, j'ai résisté, etc. » Donc, il y a aussi ce syndrome de l'impostrice qui touche les femmes d'une manière systémique. Les hommes, c'est beaucoup plus individuel, même si ça les touche aussi. C'est vraiment systémique pour les femmes et qui participe au fait de l'invisibilisation des femmes à travers l'histoire.
D'accord. Dans l'activité de l'association, vous avez deux choses, les masterclass en ligne et vous avez les visites guidées. Visites guidées que vous faites aussi bien, comment dire, à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux. Quel type de personnes viennent participer à ces visites? Parce qu'on pourrait penser que c'est uniquement des femmes qui viennent s'inscrire à ces visites.
C'est une très bonne question. On a 30% d'hommes environ et 70% de femmes qui viennent en moyenne.
Mais excusez, la parité n'est pas respectée là.
Non, parce que évidemment, je ne vais pas forcer. C'est évidemment, voilà, le féminisme, c'est un phénomène qui touche les femmes. Donc oui. Évidemment, les femmes sont plus intéressées. Les hommes ne sont souvent pas concernés, on le remarque, et ont presque tendance à vouloir, voilà, minimiser l'importance du féminisme qui ne les concerne pas personnellement. Donc forcément, c'est en toute évidence, c'est comme par exemple à Paris, il y a des visites guidées sur le Paris noir, donc on revisite Paris sous le prisme non pas du féminisme mais du racisme et de l'histoire des personnes noires. Je pense que voilà, de la même manière, il y a beaucoup plus de personnes noires qui vont être intéressées par cette visite-là parce qu'elles se sentent plus concernées. Quoi qu'il en soit, on a quand même beaucoup d'hommes qui participent à nos visites. On a des hommes qui sont des ambassadeurs Feminist in the City. On pense que c'est fondamental, essentiel et précieux, que l'égalité ne pourra pas être achevée si on n'avance pas main dans la main pour l'égalité. Ça, c'est vraiment la volonté de mettre cela en avant au sein de Feminist in the City. Et c'est pour ça qu'on ne cesse de répéter que les visites guidées sont ouvertes à toutes et tous.
D'accord. J'ai vu que vous aviez des ambassadeurs. Je ne sais pas si on appelle ça des ambassadeurs, si on appelle l'équipe, mais il y a un truc que j'ai constaté qui m'a paru assez agréable, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes parmi celles qui font découvrir les villes ou les concepts.
Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir quand même que dans le féminisme, il y a des divergences intergénérationnelles. Et dans le féminisme de la troisième voire quatrième vague, oui. qui date de MeToo assez récemment, eh bien il y a une intersection, enfin il y a des théories qui ont émergé très récemment, qui font qu'en effet on a beaucoup de personnes jeunes qui font les visites guidées pour prendre en considération ces enjeux-là et qui sont très impliquées dans ces enjeux-là. En revanche, quand je disais qu'on insiste quand même sur l'intergénérationnel, vous voyez, notre marraine féministe in the city, encore une fois, c'est Claudine Monteuil qui était jeune militante dans les années MLF, mouvement de libération des femmes dans les années 70, et qui nous épaule sur tout le contenu des visites et sur nos initiatives. Donc, si ce sont des personnes jeunes qui guident, on a quand même cet aspect intergénérationnel qui prévaut et qui est également essentiel pour nous.
D'accord. Je tiens à préciser, parce que j'ai quand même oublié, elles sont jeunes, mais elles sont aussi diplômées. Elles ont une sacrée bouteille. Elles ont une connaissance. Hein. Ce ne sont pas des gens qui font ça comme ça. C'est toujours intéressant à voir.
Oui, ce sont des féministes expertes et passionnées. On a des guides conférencières, on a des personnes qui ont étudié l'histoire qui ont un diplôme en histoire de l'art, etc. Donc oui, tout à fait. On a des entrepreneuses également féministes. Je pense à Toulouse, à Pauline, qui est donc la fondatrice des Affranchis, qui est donc également une asso féministe. Donc on a beaucoup de profils divers et variés. Ce qui compte, c'est vraiment quand on cherche des guides, c'est vraiment la passion, le militantisme et l'authenticité de l'engagement.
D'accord. Et quelque chose que j'ai trouvé très original, c'est que vous proposez sur le site internet d'offrir un cadeau. Ah, j'étais un peu surpris là.
Ah bah oui. En fait, on a beaucoup de personnes qui offrent nos visites guidées et nos masterclass en cadeau pour Noël, pour les anniversaires, etc. Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, pour Noël, si vous voulez, c'est un cadeau qui est à la fois écologique, parce que c'est pas matériel, et qui est engagé. Oui. Donc en fait, les personnes, il y a beaucoup de personnes qui offrent des visites guidées, des masterclass Feminist in the City, qui sont aussi un cadeau de, déjà, oui, encore une fois, engagé, mais un cadeau de partage de d'histoire. Et enfin, c'est vraiment un cadeau chargé de sens. Donc oui, tout à fait.
Oui, non, ça sort un peu de l'ordinaire. Puis bon, c'est un cadeau insolite, c'est quasiment intelligent.
Oui.
Bon, comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver si on a envie d'aller un peu plus loin pour découvrir l'association, pour découvrir les activités?
Bien, c'est simple, sur www.feministinthecity.com, sur notre site internet, Feminist in the City, ça s'écrit en anglais. Féministe avec un S, Féministe in the City, où vous tapez visite guidée féministe sur Google et vous allez nous retrouver.
D'accord. Et donc la prochaine, en tout cas sur Lyon, parce que bon, il y en a plein sur Paris, sur Toulouse, sur Marseille, sur Bordeaux. Sur Lyon, la prochaine, c'est le 28 novembre à 14h30. Et là, je suppose qu'il vaut mieux réserver.
Oui, tout à fait.
Parfait. Eh bien, moi, je voulais vous remercier d'avoir pris ces quelques minutes. Je voulais vous remercier aussi pour votre franchise, parce que c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui parle vrai, authentique, et c'est quand même très, très agréable.
Ah bon, bah avec grand plaisir.
Bonne journée à vous. Merci.
Bonne journée, au revoir, merci.